Radio Spirale. En février 2011, les rencontres d'écrivains du CRILC recevaient la conteuse et comédienne Joujou Turenne. La rencontre était animée par Christiane Ndiaye et s'est déroulée à la librairie Olivieri.
Bon, écoutez, bonsoir à tout le monde. Je suis très contente d'être ici fin février pour la fin du mois de l'histoire des Noirs. Et cette histoire est très ancienne et sera assez longue parce qu'on va parler des contes avec Joujou Turenne. Et je suis très contente aussi que le CRILC et Olivieri aient eu cette excellente idée d'inviter Joujou Turenne parce qu'elle est conteuse. Les conteurs se font de plus en plus rares et les conteuses encore plus. Alors, je pense que c'est une excellente chose qu'on puisse parler aussi de ce qui est vraiment l'art verbal le plus ancien, dans toutes les sociétés. On oublie trop souvent que les tout premiers textes que nous connaissons tout jeunes, ce sont les textes sacrés et les contes. Et bon, maintenant, ça s'est un petit peu tassé à cause de la télévision, mais c'est certain que les contes, depuis toujours, marquent l'imaginaire social. Et je crois que Joujou Turenne, en plus, elle a un art bien à elle, où il y a chant et danse, et c'est très, très théâtral. Elle a un répertoire aussi tout à fait spécial, international, multiculturel, qui s'adresse à la fois, je pense, aux enfants, aux adultes, et là aussi, on oublie parfois que les contes ne sont pas nécessairement conçus uniquement pour les enfants. Il y a vraiment des niveaux de lecture. Donc, je suis très contente donc, que Joujou soit avec nous ce soir et que donc on pourra parler de toutes ces dimensions du conte, de ses inspirations, puisque bon, il y en a dans son répertoire qui sont des contes adaptés du répertoire haïtien, d'autres qui ont une inspiration africaine, d'autres qui sont des créations de Joujou, et donc ça circule un petit peu partout dans le monde avec une histoire et donc toutes sortes de formes différentes. Alors, comme bon, je ne suis pas là pour parler, je suis là pour inviter Joujou plutôt à nous parler. Et alors, peut-être qu'on pourra commencer par un petit peu votre parcours. Donc, Joujou nous arrive de loin pour venir conter ici. Ensuite, elle est partie d'ici pour conter un peu partout dans le monde et de faire des spectacles. Mais elle a de multiples cordes dans son arc aussi. Alors, peut-être parler un petit peu de votre arrivée ici au Québec. Comment vous êtes entrée dans le conte là,
D'abord, merci Christiane Ndiaye de partager ce moment-là avec moi. Lorsque j'ai su que c'était Christiane Ndiaye, j'ai dit « Ah, waouh, ça va être un beau moment. Quelle bonne idée de nous jumeler. » Vraiment, là, c'est d'abord merci et puis je suis très contente et honorée. Alors, mon parcours, d'abord, j'ai quitté ma terre natale, Haïti, très, très, très jeune, enfant. J'ai même appris à jouer aux élastiques dans les cours d'école à Montréal, donc ça veut dire que j'étais assez jeune. Et mon parcours artistique a commencé par la danse. Et plus tard, de fil en aiguille, la danse est devenue une corde identitaire. Alors, d'abord, évidemment, toutes les formes de danse contemporaine, moderne, classique, mais surtout les danses antillaises, particulièrement haïtiennes et également africaines. Le temps a passé et j'ai trouvé que le bien que la danse me faisait pouvait être un bien que je pourrais faire découvrir à d'autres. Alors, je me suis dit, je vais devenir thérapeute par le loisir, thérapeute, par la danse. Mais en ce temps-là, ça n'existait pas. C'était avant les mouvements Feldenkrais et compagnie. Et c'était avant les techniques nado et tout. Donc, je passais pour une illuminée flyée. Et j'ai dit, ben si ça n'existe pas, le bien que ça me fait, c'est pas possible. Je vais trouver des gens avec qui je vais créer ça. Et pour concocter la formule, j'ai pris une je suis allée me former en psychologie, récréologie, et j'ai continué mes cours et ma formation en danse multidisciplinaire. Lorsque j'ai eu terminé ce parcours de danse et à l'université en psychologie, récréologie, la danse thérapeutique existait. Elle existait telle qu'elle, en format dans un établissement, mais zoup, moi j'avais concocté avec des morceaux de puzzle. Le temps a passé maintenant et j'en suis venue à l'expression de la danse à l'état pur et non plus le côté thérapeutique. De fil en aiguille, la danse a pris beaucoup plus de temps et d'espace dans ma vie que la danse thérapeutique, bien que j'ai eu la chance d'avoir une bourse et une formation avec Madame Judith Davis, qui elle à l'époque faisait, c'était vraiment il y a très longtemps, avant, enfin dans les années 80, et elle faisait vraiment de la danse thérapeutique avec des enfants en difficulté de psychomotricité et compagnie. Et donc me voilà de retour, c'était à Ottawa, de retour à Montréal. Et je m'imprègne de la danse. Et au passage, il y a eu un événement qui m'a happé, la télévision. Et ça m'a distrait de mon parcours. Et voilà, je suis devenue pastourelle. Ça a donné un ton à ma vie parce que le personnage est resté collé à ma peau un bon moment. Mais je n'avais toujours pas abandonné mes idées, mes ambitions de faire du bien par le mouvement. Encore là, le temps passe et je me retrouve avec la danse, le théâtre, mais en bout détaché. Et la danse, en tant que chorégraphe maintenant, puisque j'écrivais maintenant des pièces chorégraphiques, la danse n'arrivait plus à être le reflet de mon âme entière. Et c'est là où j'ai dit, oui, je vais danser, et sur scène, je vais allier des onomatopées, un bout de phrase, et de fil en aiguille, c'est devenu danse-théâtre, les proportions ont changé, c'était théâtre-danse. Et la dernière chorégraphie que j'ai écrite, c'était un conte allégorique qui s'appelait Rupture. Et ça donnait le ton pour une chorégraphie pour 9 danseurs, danseuses, et c'était en 87. Et c'est là où, sans le savoir, je venais d'écrire mon premier conte, que je raconte aujourd'hui. Depuis, j'ai récupéré ce conte-là il y a un an et demi. Je ne le racontais plus depuis 87, puis je l'ai sorti d'un tiroir l'année passée, il y a un an et demi. Et donc, voilà. Pourquoi le conte? Parce que là, il fallait choisir. J'avais un horaire tellement chargé, la danse, l'enseignement, le théâtre. Et puis, mon objectif de faire la danse thérapeutique et le théâtre expressif en milieu scolaire, ça prenait des proportions telles que il m'aurait fallu 30 heures par jour pour tout faire ça. Et donc, c'est là où j'ai eu à choisir, et j'ai choisi le conte comme profession parce que c'était la résultante de l'aspect artistique, le côté pédagogique, le passage de la mémoire, et c'était un sentiment aussi de liberté, la liberté de faire, de dire d'abord des choses à ma manière avec mes mots, en m'appuyant sur des textes anciens, et puis avec un goût du jour, en mettant un peu de contemporain. Donc c'était un genre de résultat, de boule de neige qui m'a amené au conte. Et depuis, les proportions ont changé, de sorte que aujourd'hui, c'est principalement le conte qui occupe mon temps. Voilà.
temps, ce qui montre déjà que le conte traverse vraiment le temps. Et je pense que c'est aussi quelque chose, puisque bon, on vit dans une société où on est toujours pris avec énormément de choses, mais dans l'imaginaire des sociétés, je crois que l'imaginaire est resté. Et ça se voit aussi dans vos contes que bon, c'est à la fois quelque chose de permanent, mais qui se renouvelle, d'où la possibilité de toujours susciter quelque chose de nouveau. Et je pense qu'on en avait parlé un petit peu du renouveau, mais bon, peut-être qu'on commencera par le conte qui traverse le temps, donc enfin, tout ce qu'il y a dans, comme héritage plus ancien dans vos contes. Et j'aime beaucoup ce recueil, bon, les recueils de Juju sont là, mais celui-ci qui s'appelle Un conte à rebours, où il y a en fait trois contes qui sont adaptés de contes traditionnels haïtiens, un conte qui a une origine africaine et un conte que vous avez créé. Je crois que ça représente bien la gamme de vos contes, du plus ancien, du plus récent, enfin de votre propre création, et aussi cette adaptation que vous faites. Et là, il y a des contes qui sont connus, je pense, par le public haïtien, mais qui sont pas connus vraiment par le public québécois, donc vous adaptez on parlait tout à l'heure entre nous Daenerys la baleine, mais aussi le crabier, le conte crabier qui est à la fois enfin très ancien. Donc si vous voulez peut-être parler un peu de cet héritage.
Alors, lorsque je me suis mise à explorer l'univers du conte, j'étais très embêtée parce que je ne me rappelais aucun conte de mon enfance. C'est mal parti. Alors j'ai fouillé dans plein de livres. J'ai lu plein de contes. Ah là là, et comme je voyageais beaucoup avec le métier artistique, partout où j'allais, j'achetais des livres de contes Caraïbes, Afrique, Haïti. Et voilà que, au bout d'un moment, j'avais suffisamment, le Brésil aussi, j'avais suffisamment de contes pour commencer à trier. Et dans ces contes-là, il y en a qui étaient intéressants au niveau esthétique, mais le fond, bof, moi, ça me disait pas grand-chose. C'était pas ça que j'avais envie de dire. J'avais envie de dire des choses actuelles, des choses contemporaines, avec un langage universel. J'avais envie de toucher des cœurs. Les contes, évidemment, me touchaient, donc pouvaient toucher d'autres aussi, mais j'ai trouvé nécessaire d'ajouter à chacun de ces contes-là un peu de ma saveur personnelle, un peu de mon regard du monde. Et puis, comme les contes sont très, très anciens, eh bien, il y en a aussi qui rapportent des valeurs très, très, très anciennes et parfois archaïques. Et donc, je me permettais, puisque c'était mes contes, je racontais mes contes, je me permettais de faire le ménage. Oh non, lui, il est trop macho, on enlève ça. Oh non, non, elle est trop fleur bleue, c'est pas possible. Hein. Je mettais ça un peu à l'ordre du jour. Et puis, mes contes étaient devenus aseptisés, mes personnages étaient parfaits. C'était plus des contes. Parce qu'il fallait qu'il y ait un enjeu. Alors là, je me suis ressourcée, j'ai recommencé et j'ai commencé à écrire timidement parce que je n'écrivais vraiment pas à l'époque. Et de fil en aiguille, avec le peu de contes que j'avais, parce que à l'époque, j'enseignais encore avec des enfants et j'enseignais le théâtre. Plutôt que de prendre des grands classiques, je prenais des contes et on les mettait en scène. Et donc, ainsi, Imaginez la chance que j'avais. J'avais plein d'enfants cobayes pour me fabriquer un répertoire. Et puis, les enfants, un conte, ils adorent. Hein? Alors, mais avec eux aussi, je pouvais voir lesquels étaient plus percutants, lesquels étaient intéressants. Donc, j'ai pu vraiment avoir un public extraordinaire. Et aussi, en leur proposant ces différents contes-là, je voyais bien lesquels eux choisissaient et ils m'apprenaient beaucoup avec leur regard. C'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai quand même un regard d'adulte, mais aussi ce même regard d'enfant, parce que ce sont les enfants qui m'ont appris à aimer les contes en tant que conteuse. Et maintenant, ça ne suffisait pas en voyageant, parce que le métier de conteuse nous amène souvent à voyager. Maintenant, en voyageant, c'était comme un troc. Je te donne mon histoire et puis en sortant des planches, on rencontrait quelqu'un qui nous offrait un conte. Vous avez constaté, il suffit de dire à quelqu'un qu'on collectionne des chaises pour qu'on nous offre des chaises. Il y a une époque, j'ai dit, bon, je collectionne des masques. J'avais plein de masques, on m'offrait des masques. Pardon. Et donc, je me suis annoncée conteuse. Bon, je l'étais quand même parce que je racontais beaucoup, principalement. Je faisais beaucoup de recherches. Et il est venu un moment où j'ai eu besoin d'aller écouter les anciens raconter. Et c'est là où j'ai commencé à faire du collectage. Je suis allée dans la Caraïbe faire du collectage. Et c'était très difficile parce qu'on ne raconte plus comme on racontait autrefois. On nous invite à des événements pour faire un événement du conte parce que justement, le conte se meurt. Alors, tu les prends où tes contes quand toi-même, tu es censé être spécialiste du conte? T'es mal barré. Alors, j'ai fait de la recherche et puis j'ai trouvé des vieux qui détenait encore quelques paroles anciennes et sous forme de contes. Et je me souviens, après avoir tourné, j'ai arrêté de faire le tour de la Caraïbe. Et puis, parce que il y a un monsieur qui m'a dit, mais toi, tu es né en Haïti et puis tu viens chez nous pour ramasser des contes alors que nous, on va chez toi. Mais c'est pas ici qu'il faut venir. C'est en Haïti. Et ça, évidemment, j'ai quand même pris le temps d'écouter les anciens dans certains villages. Ils ont inventé une situation carrément virtuelle de soirée de contes. C'était normalement une soirée de retrouvailles, mais là, ils ont fait pour moi une soirée de contes. Donc, j'ai pu avoir ça en collectage en créole. Et le créole d'une Antille à l'autre est un peu différent. Donc, il fallait, au moment il fallait prêter une attention particulière. Et donc, après avoir bien ri, là, je vais donc en Haïti. Et pour constater que c'était pas drôle du tout, parce que effectivement, c'était là que ça se passait. Waouh! Dans le village de mes grands-parents, quartier Morin, au nord d'Haïti, c'est là où j'ai rencontré des vieux oncles que je ne connaissais même pas parce que la famille élargie, elle est très élastique en Haïti surtout. Et donc, parmi ses oncles-là et ses cousins, cousins et oncles, aucune tante, que des hommes. Ouais. Ils m'ont passé des contes, ils m'ont raconté des contes. Au Cap-Haïtien, ma ville natale, il y a quelques dames. Je pense à Madame Saint-Fleur. Une très vieille dame avec une très très belle parole, un beau phrasé. Donc j'ai pris tous ces contes-là. Maintenant, décryptage, il fallait mettre ça à l'écrit. Et ensuite, du créole, maintenant, passer ça au français. C'était un travail quand même d'écriture, de réécriture. Et je pouvais pas m'empêcher quand même de faire un clin d'œil universel. Et c'est là où je me suis amusée à faire voyager les personnages. Je pense par exemple au conte, je pense que vous aimez bien, oui, Christiane, oui. Le conte de Crabier. À l'origine, c'est l'histoire d'une jeune fille tout simplement un peu précieuse, un peu particulière, et qui vient à aimer un pêcheur. Mais il n'y a rien qui indique qu'il y a exil, mouvance, voyage. Elle est juste particulière. Et donc, je lui ai donné une saveur un peu de voyage un peu plus lointain pour exploiter aussi la thématique de l'amour à distance. Et voilà, donc les personnages non seulement voyagent, mais aussi ont une parlure qui change d'un coin de monde à l'autre. Et c'est un aspect aussi que j'aime bien élaborer, le côté pas seulement des langues, mais aussi des accents, des tics. Les personnages sont souvent typés et puis ils ont des voix différentes. Voilà.
Et les contes ont des refrains ou des chants qui vont souvent avec. Je ne sais pas si c'est particulièrement haïtien ou si ça se trouve aussi ailleurs dans la Caraïbe où il y a vraiment comme Colibri qui est associé à un conte particulier qui, je pense que les enfants connaissent ça en Haïti, mais bon, est-ce que c'est connu ailleurs? Est-ce que c'est,
Alors, il est vrai que le cri de ralliement dans les contes haïtiens, souvent, c'est le chant. Alors, je ne sais pas comment ils font. J'ai posé souvent la question, je n'ai jamais eu la réponse. Ils ne connaissent pas la chanson, mais quand la chanson part, ils savent qu'il faut chanter. Puis ils rentrent dans la chanson, puis ça fonctionne. J'étais avec ma cousine au village de Quartier-Morin, et puis il y a mon tonton qui part son conte, et puis il commence à chanter. Le temps que je rentre dans l'histoire, je dis, oh, c'est bon, mais je pédale un peu en arrière parce que tout ça est un peu nouveau pour moi. Et puis ma cousine, qui ne connaît pas l'histoire, puis qui rentre dans la chanson, deux pieds joints, et puis elle chante, dit, tu connais la chanson, tu connais le conte? Elle dit, non, mais c'est facile. Ah, ok. C'est évident. Alors, effectivement, il y a dans la ritournelle cette manière très haïtienne de chanter. Et les contes, contrairement aux autres îles où il y a le cric, crac, qui revient à tout moment pendant le conte, le mysticric, mysticrac, est-ce que la cour dort? Il n'y a pas ça dans le conte haïtien traditionnel. C'est moi qui ai emprunté ça parce que je suis tombée en amour avec cette formule. Je trouve ça très savoureux. Mais dans le conte haïtien, il n'y a pas ça. Quand la personne raconte son histoire, elle raconte puis tu vois que c'est commencé. D'ailleurs, on peut se parler, oui, comment c'était l'autre jour? Tu es allée à la pêche? Oui, oui, c'est vrai. Et puis, c'est comme un tel, tu te souviens? Puis, l'histoire est commencée. L'histoire est commencée et puis tu t'es même pas rendu compte qu'on était dans un conte, qu'on a glissé dans un conte. Et donc, pour revenir à cette dimension du chant, oui, le chant revient beaucoup dans le conte haïtien, mais pas toujours. Et il y a également une très grande culture du conte chanté. Il y a un peu comme dans la culture européenne, il y a des grandes complaintes, même au Québec, hein, il y a des complaintes, ce sont des chants, ce sont des contes finalement. Et donc, tout le monde connaît ces histoires-là. Il paraîtrait qu'il y a toujours un petit côté grivois. Il y a un deuxième sens, un troisième sens. Et souvent, même les chants pour enfants, même les contes chantés pour enfants, en fait, ont un deuxième, troisième étage qu'on pourrait décrypter puis obtenir autre chose.
Ce qui fait que bon, ce qu'on oublie un peu ici, c'est pas vraiment uniquement pour les enfants. Traditionnellement, le conte s'adresse à tout le monde. C'est vraiment une activité familiale où chacun va avoir sa lecture et participe au chant.
Ça répartit absolument. Et il y a même des contes qui ne sont pas du tout adressés aux enfants. C'est vrai que on attend que les enfants dorment pour raconter ces histoires-là. Et où on parle en langage codé, un peu comme... Il y a cette manière très créole de s'exprimer, c'est le marronnage. On parle avec des proverbes, on mélange des mots. Quelqu'un qui écoute entend tout ce qui est dit, mais ne comprend absolument rien parce que il y a des sous-entendus et tout ça. Alors quand les enfants sont là, ils comprennent ce qu'ils peuvent, c'est-à-dire presque rien. Parce que le conte ne leur est pas adressé. Et puis, au lieu d'avoir la langue de bois, moi, ils parlent gaiement et voilà.
Bon, quand vous présentez ces contes ici à un public, parce que vous allez dans les écoles, vous faites des ateliers, est-ce que vous avez besoin d'expliquer beaucoup? Est-ce que le public saisit un peu ces différentes dimensions ou est-ce que c'est bon?
Quand je raconte, je n'explique rien du tout. C'est-à-dire que c'est un voyage. Je donne les codes, mais les codes sont intégrés dans le conte. Et il suffit qu'il y ait deux ou trois personnes qui embarquent dans l'histoire pour que les autres suivent. Alors... si je dis « cric », vous dites « crac ». Alors, je dis ça une fois. Après, si les gens ne répondent pas, j'arrête l'histoire. Donc, il y a quelqu'un qui dit « oui, oui, c'est vrai, il faut dire « crac ». Et donc, on enchaîne ainsi l'histoire. Je n'explique pas parce que ce ne serait pas tellement féerique ou magique de rentrer dans une explication du conte. Le conte se vit, il se partage. Et ce que nous faisons là, c'est un moment assez particulier parce que il n'y a pas de mode d'emploi. Je dis souvent que le conte, c'est l'école de la vie parce que quand on naît, on n'a pas un livre avec les articles 1.2, 1.3 pour savoir comment faire. Alors, c'est ça, avec les messages, avec les sous-entendus, les personnages aussi qui sont... des héros. Il y a aussi les contes où on peut s'identifier aux personnages, des contes un peu thérapeutiques finalement, où on s'identifie au héros qui a un problème et qui réussit à se sortir de ce problème-là. Et comme il y a une identification au héros, alors on se dit, si le héros ou l'héroïne a pu s'en sortir, moi aussi, en se transposant dans le personnage, moi aussi, je pourrais m'en sortir.
Ben, je pense que c'est quelque chose qui est très présent dans le conte créole. Ça me fait penser à une petite phrase de Glissant qui nous a quittés tout récemment, qui disait « Le conteur est le jobber de l'âme dans ce sens-là que, bon, c'est pas seulement l'héritage, c'est aussi entretenir, enfin, dans la douleur, quelques désespoirs, de liberté, d'amitié. C'est très présent dans vos contes aussi.
Oui. Comme je dis souvent aussi, effectivement, l'âme profonde, hein, l'âme profonde qui est universelle d'un peuple à l'autre. Avant d'être caraïbe, avant d'être africain ou caribéen ou québécois, on est humain. Et les archétypes que l'on retrouve dans les contes sont les mêmes d'une culture à l'autre. C'est la petite saveur particulière. C'est le détail au niveau d'une réalité locale qui donnera le ton à un conte. Par exemple, Cendrillon, il y a tellement de versions dans Cendrillon, et il y a une copine conteuse qui me faisait remarquer que il y a dans toutes les versions de Cendrillon, il n'y a pas une fois où Cendrillon dit « Mais non, ma reine, ma robe est bien trop belle, donne-moi une vilaine robe. » Pardon. C'est un exemple un peu absurde, mais qui nous montre que dans les valeurs universelles, quand on... quand on présente le schéma d'un conte d'une culture à l'autre, ça se recoupe. Voilà.
Bon, ça m'amène un peu à, ça me ramène à Eneris parce que c'est toujours un conte qui me fascine un peu parce qu'il y a différentes versions pour la fin. Ça s'appelle dans d'autres versions le poisson amoureux et parfois ça se termine bien dans la mesure où les amoureux vont se retrouver et parfois ça se termine mal parce que la jeune fille va mourir de chagrin et s'enfoncer dans, et là je me demande est-ce que c'est un rapport ou je sais pas votre réflexion là-dessus si c'est peut-être dans l'histoire des moment où on a un imaginaire social plus optimiste, ou est-ce qu'il y a un message, est-ce qu'il y a, enfin, est-ce que les parents sont punis, je sais pas.
Il paraîtrait que le conte merveilleux est merveilleux parce qu'il finit bien.
Oui.
Et donc j'aime bien que les contes finissent bien. Avant j'écrivais des contes qui finissaient mal. Et puis, j'ai un grand sage chinois qui m'a dit, tu sais, les contes que tu racontes finissent par être le reflet de ce que tu projettes dans ta propre vie. Si tu fais une toile et qu'elle finit bien, la toile en faisant référence au conte, et que ça finit bien, ce bien-là te revient. Je dis, ah ouais, wow, je vais essayer ça. Et puis, je suis tombée dans le conte merveilleux. Donc, mes contes finissent bien. Je ne sais pas s'il avait raison, mais en tout cas, je continue à écrire des contes qui finissent bien. Il est vrai, dans le conte, par exemple, de Eneris la baleine, si vous ne connaissez pas le conte d'Eneris la baleine, c'est une variante du conte, comme disait Christiane, le poisson amoureux, qu'on appelle aussi Tézin. Tes un bons amis moins un, tes un dans de l'eau, bons amis moins un. Alors, tes un a eu un succès au-delà des frontières, mais c'est un conte qui vient vraiment d'Haïti. Et lorsque je suis allée au nord d'Haïti, cette fois j'ai quitté mon village, c'était un petit peu plus loin, il y a quelqu'un qui m'a raconté son histoire. Mais on se parlait, et puis il est tombé, zoup, tout à coup, et puis le conte était commencé. Et puis, pouvez-vous répéter? Parce que j'avais manqué le début, j'ai pas compris que le conte avait commencé, parce que ça va vite, hein. Et puis c'est un créole très, très pur. Il n'y a pas, c'est pas dilué, là. Et puis, il commence à raconter l'histoire, et puis il y a plein de chants, et puis tout le monde répond en chœur, et puis là, à la fin, je dis, est-ce que votre conte a un titre? Il me dit, d'abord, il trouve c'est quoi cette histoire-là, un titre? Qu'est-ce que c'est complètement... Pourquoi il faut un titre à un conte? Un conte est un conte. Comment vous faites pour vous rappeler tel conte? Ils sont dans ma tête. Je connais mes contes. C'est vraiment deux mondes et c'est savoureux. Et donc, je me suis dit, je vais appeler le conte Sirène Baleine parce que il y a un chant qui revient. C'est moi la sirène, la baleine, ça qui nous mène au moins là et là, yeah. C'est moi la sirène, la baleine, ça qui nous mène au moins et là, yeah. Ça revient tout le temps. Et c'est plutôt que de s'appeler Tézin, le poisson s'appelle, c'est moins la sirène, la baleine. Alors, j'étais, au moment de faire c'est même pas de la traduction, c'est un transfert de sens en français. Je me suis vue, comment je vais appeler le poisson sirène, baleine, et la fille tombe amoureuse de ce poisson. Alors que dans l'imaginaire, souvent, une sirène, c'est un corps de femme, mais c'est pas une sirène, c'est sirène baleine. Comment je vais contourner ce problème-là? J'ai pris sirène, j'ai mis à l'envers, ça fait Eneris. Et c'est joli aussi, Eneris. Et donc, c'est ça la liberté qu'on peut se donner quand on écrit et qu'on réécrit des contes. Et ça ne change absolument rien à l'histoire qu'il s'appelle Eneris ou qu'il s'appelle Glabadaï ou qu'il s'appelle Baleine, tout simplement. Et donc, c'est cette liberté-là que je me suis donnée. Et cette version-là, même, je l'ai racontée à d'autres qui viennent du Nord. Ils ne connaissent même pas, même mes parents ne connaissaient pas cette version-là de Thésée. Voilà.
Bon, on aura peut-être le temps d'en parler un peu plus, mais il y a une autre dimension, et on avait parlé un peu de cette phrase de Jacques Stephen Alexis, qui était un écrivain haïtien que les Haïtiens ici connaissent bien, et qui voulait aussi s'inspirer de l'héritage des contes, et qui d'ailleurs dans le merveilleux disait, enfin c'est le grand théoricien du réalisme merveilleux en Haïti. Et qui avait expliqué, je vais le citer parce que j'ai toujours trouvé ça intéressant, puisque ça traverse les contes et les romans. Il disait ceci: de ces contes qui ont bercé ma jeunesse, j'ai pris le goût qu'ils ont d'interpréter la réalité nationale avec une certaine tendance philosophique. Nos composes, nos tireurs de contes, de l'histoire de nos tireurs de contes, se dégagent toujours trois questions angoissantes. Quel homme, où va-t-il, comment vivre? Et je pense que les conteurs partout, quelque part, sans jamais expliquer ces choses, on parlait, bon, de, enfin, même, Tipinge, est un peu, je pense, un conte comme ça, où, en dessous, il y a des choses, bon, ce qu'il faut faire ou pas faire, sans jamais que ça soit explicité comme ça, il y a un petit fond quand même plus philosophique, c'est bien, c'est pas bien. Même, je pense, dans Le Poisson Amoureux, les parents qui veulent à tout prix tout contrôler et qui finissent par perdre leur fille, finalement. Donc, il y a quand même une leçon. Là.
Oui. Alors, il y a, comme je disais, il y a plusieurs niveaux de lecture dans chacun des contes. Il y a le côté plus évident, superficiel, et même nous, adultes, en lisant ou en écoutant le même conte, à chaque fois, c'est comme si c'était un oignon et puis on enlevait une pelure à chaque fois et puis on trouvait un nouveau sens. Et même nous, conteurs, souvent nous avons des rencontres et nous nous disons que souvent, nous écoutons nos propres contes qu'on raconte depuis des années, et tout à coup, un soir, en allant se coucher ou devant une banalité de la vie, on vient de se rappeler que tel conte rapportait tel message. Et ce sont des vecteurs avec un langage métaphorique qui, tout comme la force de la poésie, apporte dans un langage voilé un message souvent pas tout à fait accessible à première vue. Et en écrivant ces contes-là et en choisissant de les rapporter, parce qu'il y a tellement de contes, on pourrait choisir un conte plutôt qu'un autre, en choisissant ces contes-là qui deviennent nos contes, eh bien, on se met aussi en réaction à l'univers par rapport à la société, on se met en position de dire des choses. Et il est vrai que les contes parlent d'eux-mêmes, et nous, conteurs, parfois, sentons le besoin d'ajouter un message supplémentaire. Et par exemple, dans le cas de Tipinge que vous mentionniez, c'est un conte merveilleux, une petite fille maltraitée, et puis finalement la méchante Madame M. Je voulais pas que ce soit une belle-mère, parce que les belles-mères, il y en a des gentilles, hein, et puis elles en ont soupé dans les contes, les méchantes belles-mères. Ça aussi, on prend position, hein. Et puis, d'autant plus que j'ai enregistré une version de Hansel et Gretel, et puis la belle-mère est méchante! Oh, elle est méchante. Et donc, il y a la belle-mère qui est méchante, et il y a la sorcière dans Hansel et Gretel.
Oui,
ouais, en tout cas, bref.
Oui, c'est vrai.
Oui. Et donc, je voulais pas qu'elle soit méchante, la belle-mère, mais je voulais qu'il y ait une méchante. Et je voulais pas que ce soit justement une sorcière, parce que je voulais que ça fasse appel à une réalité, qu'en lisant même en premier degré, qu'on sache qu'il y a des méchantes et des méchants qui sont pas nécessairement des sorcières, qui s'habillent en tailleur et qui sont très méchants. Et je voulais que ça passe ce message-là comme ça. Et le conte finit bien. C'est un conte merveilleux. À la fin, évidemment, avec son astuce et puis la complicité de ses camarades. Et puis aussi, elle a eu un peu de chance. Parce que nos héros, souvent, ont de la chance. Parce que la chance, c'est un élément souhaitable dans la vie. On essaye de faire passer ça dans les contes aussi. Et elle finit par s'en sortir grâce à Grandbois aussi, qui était... C'est arrangé avec le gars des vues. Qui passait par là et qui a pu être son complice. Et donc, à la fin de l'histoire, qui finit bien pour Tipège, l'histoire pourrait terminer là, le livre Tipège pourrait carrément finir ainsi, bon, merci, bonne lecture. J'ai trouvé nécessaire de prendre l'occasion de parler clairement, sans voiler les mots, de la maltraitance enfantine et de dénoncer, pas dénoncer, clamer, parce, dénoncer, ouais, c'est pas ça, c'est pas ce ton-là que ça prend, juste clamer, dire qu'il y a de la maltraitance, en Haïti ça s'appelle des restes avec, il y en a aussi partout, il y en a, et puis il y en a à Paris, Djibouti, Miami, New Delhi, il y en a en Haïti, il y en a à Rimouski, il y en a en Gaspésie. Et que ce conte est dédié à tous ceux qui perpétuent ce fléau-là de la maltraitance. Donc, je trouve que quand on est conteur, on est également artiste, on est des gens de la société, on a un discours, on a un propos, et on choisit le conte pour faire passer ces messages-là, souvent.
Bon, je pense que c'est un message qui s'adresse davantage aux adultes. Quand vous travaillez ces contes avec les enfants, est-ce qu'ils saisissent, est-ce qu'ils réagissent un peu à ce niveau-là?
Oui, absolument. Le message maltraitant s'adresse aux adultes, comme quoi... Ne maltraitez pas les enfants, hein? C'est franchement. Mais l'enfant... Il s'adresse aux enfants aussi, qui dit que, quoi que tu vives, tu peux t'en sortir. Parce que Tipinge finit par s'en sortir. Et les enfants adorent Tipinge. Parce qu'ils voient en elle l'héroïne et tout. Et puis, la manière dont elle s'exprime, elle est débrouillarde. Et puis, elle a du vent dans les voiles, elle sait ce pas faire. Et puis, ouais. Et puis, Grandbois arrive. Ouais, pas non, Grandbois. Ouais, ouais, je suis Tipinge. Je l'ai marré tout net. Il a dit, c'est Grandbois, moi, il est. Laquelle d'entre vous est Tipinge? Dit Grandbois. Et puis, il y en a une qui arrive. C'est moi, Tipinge, hein? Et puis Grandbois vient pour l'attraper. À peine Grandbois arrive-t-il qu'il y en a une deuxième qui arrive. C'est moi, Tipinge, deux. Et puis Grandbois vient pour attraper la deuxième et puis une troisième arrive. C'est moi, Tipinge, trois. Et puis, il y avait une quarantaine et une fourmilière de jeunes filles qui se mirent à lever les bras et à virevolter les hanches et à chanter « Nous sommes toutes si pêches, nous sommes toutes si pêches, nous sommes toutes si pêches, Grandbois était tellement fâché, messieurs, dames, société, qu'il était fâché. C'est vrai qu'une tour de colère monta sur sa tête. Et là, il est allé voir Madame M, qui n'est pas une sorcière. Elle est M, qui ne porte pas de nom, M pour méchante, M pour mauvaise, M pour malveillante. Madame, je suis allée voir Tipinge, vous m'aviez dit qu'elle serait là de l'autre côté de la rivière. Oui, elle y était, elle était habillée tout en bleu. Justement, elle était en bleu, mais il y en avait une, et puis deux, et puis trois, et puis 10, et puis 40, et puis toute une fourmilière habillée tout en bleu.
C'est une méprise. Oh, maître Grandbois, c'est un malentendu. Vous verrez, demain, elle sera vêtue de rouge ou bleu, enfin turquoise, la couleur que vous voudrez.
Et puis voilà, ça continue comme ça. Donc, les enfants adorent ça parce que ils voient que, ah ouais, on a joué un tour. Premièrement, on a joué un tour à Grandbois. Mais en réalité, Grandbois devient le facilitateur. Donc, on a joué un tour à Madame M parce que c'est elle qui se fait prendre par la crinière. Et qui, jusqu'à aujourd'hui, travaille dans les bois pour payer pour sa méchanceté, sa malveillance.
Oh, c'est merveilleux. C'est ça, le conte merveilleux. Ça finit bien, c'est merveilleux.
Et puis, trêve de plaisanterie, il y a le côté de empowering. Tu lis ce conte-là, tu es enfant, et ça te donne de la force, du pouvoir. Ça te permet d'aller de l'avant parce que le sujet de la maltraitance, il est très réel et il est très sérieux. Et je suis allée raconter Tipinge en Guyane dans une ville, attendez ma mémoire, Saint-Georges, je crois, où effectivement il y a le problème de maltraitance enfantine. Et j'étais avec ces enfants-là. En train de raconter, de faire Tipinge, et Tipinge qui devient interactif, il y a Tipinge 1 qui vient, vous auriez dû voir l'emballement, ils étaient vraiment dedans, et c'est très et après il y avait un atelier parce qu'on faisait avec ça, c'était pas seulement un spectacle, on faisait du théâtre social parce que le conte sert à ça aussi souvent. Et donc après il y a eu un forum de discussion, mais c'est pas parce que le problème est grave que ça devient forcément glauque. On aborde les sujets et puis parce qu'à la fin je demande qu'est-ce qu'elle aurait pu faire d'autre, parce que c'est pas tout le monde qui rencontre Grandbois le maître des bois, c'est pas tout le monde qui rencontre Grandbois dans la vie, qu'est-ce qu'elle aurait pu faire d'autre, et c'est là où ça devient un carrefour d'idées intéressant.
Et ça permet de parler un peu, bon, on avait mentionné, bon, même si il y a moins de conteurs, c'est plus dans nos mœurs qu'avant, mais il y a quand même un certain renouveau dans les écoles, dans les formes, au cinéma, il y a des contes qui circulent à travers le monde, et là aussi que ça quand même, on a l'impression que c'est loin d'être un art en disparition finalement. Bon, quelqu'un comme vous arrivez à reprendre de l'intérêt, à créer de l'intérêt. Je pense que dans les écoles, il y a toute une activité autour, en dehors, enfin, parce qu'on connaît un peu les forums un peu plus folkloriques, mais là, ça ressemble davantage vraiment à un type de renouveau où on peut faire du théâtre, faire du spectacle, passer à la télévision.
Oui, le conte se renouvelle d'abord dans la forme et aussi dans l'intérêt de celui qui porte cette parole conteuse. C'est-à-dire que autant que la danse se renouvelle, autant que le conte se renouvelle. Aujourd'hui, on assiste à une multiplication des formes de la parole conteuse. Il y en a qui ne font que du conte traditionnel, il y en a qui ne font que du conte merveilleux, il y en a qui ne font que des contes pour enfants, il y en a qui se spécialisent dans les contes de la petite enfance. Et il y a des conteurs et des conteuses qui embrassent un spectre beaucoup plus large. Dans ce renouveau-là, il y a de plus en plus d'endroits où le conte est présent. Des endroits, par exemple, on est dans une librairie. Les gens viennent pour des livres et puis voilà qu'on est en train de parler de conte. Là, aujourd'hui, nous parlons de conte, mais Olivier Ride, des fois, organise même des prestations en tant que telles.
Donc, le conte, oui, est compté dans les écoles, mais aussi dans les musées, dans les festivals en plein air, les festivals mon Dieu, dans la francophonie, par exemple, en France, en Belgique, en Amérique latine, du Sud, au Québec, d'Est en Ouest, même le Canada anglais, les lieux de diffusion pour le conte se multiplient. En fait, c'est pas compliqué. Partout où on peut parler, eh bien, dans ces mêmes endroits-là, on peut également conter. C'est vraiment un univers de plus en plus élargi que celui de la parole conteuse. Et souvent, il y a des événements, par exemple, dans ce renouveau-là, si nous parlons du Québec, ici même à Montréal, il y a quelques années, ça fait plus que 10 ans maintenant, il y a le sergent recruteur qui est un lieu où les conteurs se faisaient un peu la bouche. Pour, on dit pas se faire la main, c'est pas la main qui se faisait, il se faisait la bouche ou la parole, je sais pas, à cet endroit-là, et le public était volontairement cobaye et découvrait de nouveaux talents, et parmi eux, il y en a qui ont émergé, il y en a qui ressortent du lot. Il n'y avait pas de Star Academy du conte, mais il y avait ça. Et autrefois aussi, bien plus loin que sergent recruteur, il y a le musée de la civilisation à Québec, qui pendant des années, sous la vigilance de Dominique Renaud, qui fait un travail exceptionnel, je ne le dirai jamais assez, qui faisait des animations pendant 2 semaines du festival. Les enfants sont conviés au musée, sont les enfants qui se déplacent, et les conteurs, chacun a un coin dans le musée et raconte ses histoires. Donc, les enfants font le tour de chaque conteur, et ça, c'est pendant le jour, et pendant le soir, lorsque les enfants partent, il y a des soirées entre nous conteurs, pour tout public. Alors, ce qui est intéressant, c'est que même en ne voyageant pas, le fait de voir des conteurs qui viennent des 4 coins du monde et en faisant partie chez toi d'un événement international, tu finis par voyager dans l'univers de la parole d'autrui. Et ce renouveau-là, donc nous parlions du Québec, ce renouveau-là se sent également dans l'ensemble de la Caraïbe. En Afrique, il y a de plus en plus de petits festivals qui ont émergé, qui deviennent de plus en plus grands. Il y a le Burkina Faso, Festival Yélène, il y a le festival de Manfé-Aubin, c'est depuis 96 en Côte d'Ivoire. Il y a le festival de Valentin Kwamba au Congo Kinshasa. Maintenant, il y a celui de Congo Brazzaville avec Abdon Fortuné Kumba. Enfin, les festivals se multiplient de plus en plus et rencontrent, par exemple, les rencontres qu'il y a eu l'année passée en Guyane. Et lorsqu'il n'y a pas un festival en tant que tel, il y a les maisons de la culture ou les centres culturels français, les CCF un peu partout, qui organisent des événements et invitent des conteurs. Et c'est là où, puisque nous voyageons beaucoup, les gens qui sont sur place voient défiler devant eux un genre d'arc-en-ciel de paroles conteuses. Malheureusement, je ne suis pas certaine qu'il y en ait suffisamment pour que ce conte-là revive une fois que nous, on a fait notre spectacle. Alors, c'est pas dans les festivals seulement. Je constate toutefois que lorsqu'il y a un festival et que à l'intérieur de ce mandat, il y a également des ateliers de formation, là, je vois qu'il y a vraiment une différence. Et par exemple, je sais qu'il y a plusieurs années, j'étais au festival de Valentin Kwamba au Congo. Aujourd'hui, lorsque j'entends que tel, je peux pas dire élève, mais tel artiste en herbe fait maintenant les planches. Ben moi, je suis très contente d'entendre ça. Ouais, je suis vraiment contente. Donc, c'est comme quoi, nous, on nous a offert des contes parce qu'on dit, moi, j'aime partager la parole conteuse. On nous fait don d'histoire. On en lit, on en écrit aussi. Et avec le temps, on passe le flambeau à d'autres parce que il n'y a pas vraiment encore aujourd'hui une école du conte. Il y a quelques mouvements de pensée du conte. Par exemple, à Bruno de la Salle, en France, il y a plusieurs mouvements. Il y a le bassin de Grenoble, les arts du récit. Ils font un travail formidable en termes de l'oralité. Il y a le Cléo, le centre de littérature orale sous la gouverne de oh my god, j'ai pas mémoire de nom, c'est terrible quand ça m'arrive, je peux perdre un nom là, my god, ça va me revenir, c'est tellement grave. Marco Barret, c'est tellement grave. C'est vraiment un monument ce que Marco Barret fait comme travail présentement dans le monde de la littérature orale. Et de temps en temps, nous avons des colloques, des moments de réflexion à l'international pour repenser le conte quant à sa diffusion, quant à son intérêt. Et quant à son propos, quel est l'avenir du conte? Et justement, il y avait eu un colloque, voici l'acte, le conte témoin du temps, observateur du présent, sous la direction du collectif Littoral. C'est publié chez Planète Rebelle, ça vient de sortir. Et nous étions rassemblés autour de la problématique du conte quant à son devenir. Qu'en est-il du conte aujourd'hui et quel est l'enjeu? Pourquoi nous comptons et que devient le conte? Nous savons très bien que de plus en plus les formes d'art se mélangent, de plus en plus. Et aujourd'hui, évidemment, le conte n'est pas une exception à cette règle-là. Alors, il y a les puristes qui disent le conte doit demeurer dépouillé. Il y en a qui disent mais non, il faut habiller aussi le conte. Et à travers tout ça, on est en train de se demander comment faire pour faire le contrepoids avec tout cet univers qui va très vite avec Twitter, Facebook et tout ça. On va quand même pas s'envoyer des comptes par mail. Mais parce que le conte se vit et se partage dans un moment en temps réel. C'est vrai qu'on compte et qu'on fait des clips qui peuvent être captés pour la télé ou le temps d'un DVD, mais en réalité, le compte, c'est un moment de convivialité qui se passe entre les gens qui étaient là à ce moment-là. Voilà. Et on dit aussi que même si tu habilles ton compte, le compte, c'est ce qu'il reste, même avec une panne d'électricité.
Ce qui fait un peu comme la différence d'un texte de théâtre par rapport à la représentation. On a toujours un texte, mais la représentation, c'est autre chose. C'est quand même une autre dimension.
Absolument. Et en plus du théâtre, parce que le théâtre, on a quand même un texte sans le public, on peut imaginer que le public est là. Le conte, sans ton public, il n'y a pas de conte parce que le conte se réinvente à chaque fois. On a une trame et il faut ficeler à travers cette trame-là sous une forme d'improvisation avec le public. Et si le public n'est pas là, ça tombe à l'eau. Ça tombe à l'eau. Et quand on compte, quand on a le mandat de compter, par exemple, pour la télévision, on doit faire un grand, grand effort d'imaginaire très exigeant parce que le public n'est pas là et il faut avoir le retour d'un public virtuel. Voilà.
Alors, c'est peut-être le moment de dire un texte.
Ah, hein, déjà?
Ben, pour laisser un petit moment après. Pour,
oui, d'accord. Alors, on a parlé du conte, mais on n'a pas eu le temps de parler de mon travail d'écriture qui se promène entre le conte, les récits poétiques, et je prends aussi quelques textes qui ont une version traditionnelle et j'essaie de leur donner un deuxième souffle, une deuxième vie avec un regard qui peut-être sera, je sais pas, une référence, peut-être pas une référence, mais en tout cas qui sera répertorié parmi les 200 versions de Cendrillon. Peut-être qu'on dira, tiens, il y a 201 versions. Voilà. Il y a même quelqu'un qui m'a dit que Tipège, en fait, était...
Mais ça commence un peu comme Cendrillon, mais oui. Bon, ça dévie vers autre chose.
Et donc, il y a aussi un aspect de mon univers, celui des récits poétiques. Parce que pour amener quelqu'un dans ton univers, il faut d'abord te présenter. Alors, au lieu de dire bonjour, je m'appelle Jojo Turin, je vais vous présenter un conte. Toute personne écouterait. Alors, on le dit sous forme poétique. Donc, il y a ces écrits-là, identitaires. Mais il y a aussi d'autres textes qui sont des souffles par rapport à quelque chose qui se passe et qui est dans une urgence actuelle de dire et de faire partie du momentum. Et c'est ainsi que le séisme en Haïti a secoué Haïti, mais aussi a secoué nos cœurs tous, et pas seulement haïtiens, mais vraiment beaucoup de gens sur la planète. Et à ce moment-là, j'étais en train de vivre plusieurs choses qui s'entremêlaient et s'entrecroisaient. Et j'ai eu envie de prendre une plume et d'écrire sous forme d'exutoire cette douleur plurielle. Et ce texte, je l'ai écrit le 31 janvier 2010. Et je l'ai mis à jour dernièrement parce qu'il est encore très présent, très réel, très concret. Avec votre permission, j'aimerais le partager avec vous. Assise comme ça, c'est drôle. Hein, je parle rarement assise. Je veux me mettre debout après pour faire un petit extrait d'un autre conte. Je vais y aller. Feyou, ou a sauvé la vie moi, nan misère moi yé wayou. Feyou, sauvé la vie moi. Nan mizè mwen ye wayo. Il y a Haïti, ses morts, ses survivants. Il y a mon cœur brisé des rêves envolés. Il y a le chaos dans ma tête, il y a aussi et surtout le quotidien. Il y a la solidarité qui donne force, courage et espoir. Il y a l'espoir, l'espoir, l'espoir. Il y a le besoin de m'impliquer dans cette mouvance de reconstruction, mais il y a aussi le star system qui va trop loin parfois, je trouve. Ça prend des allures de concours de gloire. Je me demande où iront tous ces intéressés dans un mois, deux mois, un an, cinq ans, 20 ans. Il y a la télé, puis il y a le silence. Quand je conduis la voiture, je ne comprends pas pourquoi les immeubles sont debout. La seconde qui suit, je me rappelle que je suis à Montréal, même si ma douleur sera à Quisqueya, Quisqueya, Quisqueya où chacun a perdu des êtres chers. Il y a des pleurs, clairsemés de sourires, parfois de rires. Oui, je pleure, je souris encore, je ris parfois. C'est mon quotidien. Il y a une douleur plurielle logée dans des poupées.
poupée russe, une de ces poupées à le ventre vide, affamée de dignité pour mon peuple dont on montre des images d'horreur sensationnelles, inutiles pour comprendre l'essentiel. L'essentiel, l'essentiel d'une douleur teintée de combativité, de courage, de témérité. Il y a les chiens qui dépriment parce qu'ils sentent trop la mort. Il y a la nuit des femmes, des filles violées, violentées. Il y a mon peuple, my people, blood of my blood, sans requiem en ce moment qui enterre ses morts. Deyo, muere le deyo, Haïti yo. Il y a qu'il n'y a plus de palais national et s'écroule en même temps une partie de mon enfance d'où j'entends retentir au loin qu'il est 8 heures sur toute l'étendue du territoire national. Il y a des résilients qui font le ménage à 5 dollars par jour. Il y a un restaurateur qui donne à manger gratuitement jusqu'à épuisement de ses stocks. Mais en pile chai palou, une douleur collective est bien plus légère à porter. Tout de même, si j'étais alcoolique, je me paierais une brosse. Toxicomane, je me gèlerais le cerveau. Il me reste des pleurs en guise de requiem pour des cadavres empilés dans des fosses communes. Deyo, muere le deyo. Haïti, oh. Mes chères soldates, soldats inconnus, je vous pleure, je vous chante, je vous pleure, je vous chante, je préfère pleurer, rire, chanter, écrire, danser et espérer. Car il y a au loin des enfants au cœur battant, attendant une chance de vivre autrement qu'en mode de survivance. Il y a l'agenda, les échéanciers. Heureusement que pour l'instant, ce sont des enfants qui me remplissent de tendresse. J'essaie de leur rappeler que chacun est unique, spécial, avec un petit diamant dans le cœur. Il y a l'espoir, la tendresse. Il y a l'espoir, la tendresse. Il y a l'espérance. Il y a mes tisanes pour arrêter le temps. Il y a la grande chaîne de l'humanité dans sa vibrance qui me fait sentir humaine. Il y a mes amis d'ici également éprouvés. Nous partageons le quotidien autour d'un repas express, d'une conversation, d'un câlin, d'un sanglot, puis d'une blague 3X. Ouais, c'est encore ça la vie au quotidien. Il y a rage de vivre autour de moi, je m'en imprègne. Il y a ma rage de vivre, il y a ma rage de vivre. Il y a une fillette de 12 ans sortie des décombres, au bout de 8 jours, les bras en V comme victoire. Il y a vous avec qui j'ai envie de partager ce texte. Il y a encore la vie, il y a que je craque, que je craque, que je craque de tendresse. Il y a l'amitié, il y a l'espoir, l'espérance. Il y a 1 million d'orphelins, il y a les survivants, il y a la culture, la littérature. Il y a les arts vivants, vibrants. Il y a la volonté d'un meilleur lendemain. Il y a encore et encore rage de vivre. Il y a rage de vivre. Il y a rage de vivre. Il y a rage de vivre. Merci d'être là. Vous voulez...
Oui, ben je pense que c'est ça, hein, le conte parle de la vie. Ben, c'est votre expérience. On voudra peut-être échanger un peu avec vous pour ceux qui ont des remarques, des questions. Il y a un micro en arrière.
Ici, la presse
claque.
Mwen konnen yon kote nan fon bwa, yon kote si wale warete. Genyen lo, genyen rivye koule, genyen fle, genyen danse yon valou a Kongo, si wale warete. An ale nan fon bwa. En aller dans fond bois, en aller dans fond bois, en aller dans fond bois. Yé cri, yé missi cri, messieurs dans la société, est-ce que la cour dort? Non, la cour ne dort pas. Messieurs dans la société, est-ce que la cour dort? Si la cour ne dort pas, qu'elle ouvre grande les fenêtres de son esprit, car
Plus loin que 3 fois 9 pays vivait un homme si riche qu'on disait de lui qu'il était richissimo. On disait qu'il était richissimo. Et pour ne pas payer ses travailleurs et travailleuses, il leur disait comme ça, rapportez-moi de l'ail, rapportez-moi de l'ouille. Les gens partaient, ils allaient chercher l'ail, ils allaient chercher l'ouille. Ils revenaient bredouille, ils revenaient bredouille. Un jour, une dame nommée Mathilda arriva en signe de contrariété. Monsieur, vous savez, l'ail et l'ouille ont augmenté de prix. Il faudra me faire une petite avance et j'irai vous chercher comme convenu l'ail et l'ouille. Et après quoi, vous me paierez la différence. Marché conclu. Marché conclu, rétorqua l'homme, sachant très bien qu'elle ne trouverait ni l'ail ni l'ouille, car elle reviendrait. Messieurs, dames, société, ainsi fut dit. Ainsi fut fait. Mathilda s'en alla au marché. Et ce jour-là, il y avait un vent qui soufflait. Le vent soufflait et chantait et sifflait. Vent, oh, baboudé-boudé-ba, vent. Vent, oh, baboudé-boudé-ba, vent. Elle arriva au marché et elle acheta, pensez-vous, de... Mais c'était quoi donc de l'ail et de l'ouille? Elle dut improviser. Elle acheta un premier vase et puis elle acheta un deuxième vase. Elle acheta également un mille-pattes et puis un scorpion. Dans le premier vase, elle introduisit le mille-pattes et dans le deuxième, le scorpion. Elle retourna chez cet homme qui était si riche qu'on disait qu'il était... richissimo. Et le vent soufflait à nouveau et chantait et sifflait. Vent et baboudé-boudé-ba. Elle arriva. Monsieur, je vous ai rapporté tel que convenu l'ail et l'ouille. Vous n'êtes pas revenu bredouille? Ah non, regardez, mettez la main par ici, là où il y avait le mille-pattes. Et s'il fut dit, et l'homme introduisit la main dans le vase et il cria, aïe! Et Mathilda eut à dire, monsieur, pour l'ouïe, vous n'avez qu'à mettre la main dans le deuxième vase, là où il y avait le scorpion. Et l'homme eut à dire, non, prenez votre argent et même un surplus avec ça, que je ne vous revois plus jamais. Fainéante, allez, oust, partez. Yé, cri. Messieurs, dames, société, c'est pour vous dire que cette histoire qui semble simple, courte et banale, en fait, est le début d'une très longue histoire. Car dès lors, l'homme s'est mis à payer ses travailleurs et travailleuses à chaque fois qu'ils faisaient leur travail. Voyez-vous, nous, conteurs, conteuses, nous jouons avec les mots paroles, les mots tendresse, les mots douleur, les mots souffrance. C'est notre manière à nous d'atténuer la douleur humaine. Ces mots vous appartiennent. Attrapez-les et rapportez-les à tout vent. On m'appelle Joujou Ami du Vent, ces paroles vous viennent du vent, et avant d'être miennes, elles appartenaient au vent lui-même. Rapportez-les à quiconque voudra bien écouter. Voici, voilà. C'était pour faire digérer l'autre texte. ça a marché. Quelques questions, commentaires.
Oui. Il paraît qu'il faut prendre le micro parce que...
Moi, ce que je voudrais dire, au début, les contes, c'était une activité familiale. Mais de nos jours, on en a de moins en moins d'activités familiales. Avec juste les conteurs qui font le tour, je me demande si on n'utilise pas les supports dont on a, comme l'Internet et autres, quel serait l'avenir des contes. Parce que juste pour venir ici aujourd'hui, je trouve que beaucoup de personnes sont bien braves parce qu'on a dû faire pas mal d'efforts, alors qu'on aurait pu suivre le compte dans notre lit avec ça. Je comprends bien les contacts personnels, les rires que je vois là. C'est, je pourrais pas l'avoir sur Internet, le contact, la chaleur qu'on a, on pourrait. Mais moi, je pense, pour la survie des comptes, il faudrait essayer tous les moyens dont on a. On va pas négliger rien, mais on va essayer tous les moyens. Je sais pas, c'est quoi votre opinion là-dessus?
On a passé une semaine de colloque, justement, l'année dernière, pour essayer de voir comment conjuguer avec cette réalité-là. Tout va vite, l'Internet, la télé, les gens sont bien dans leur petit cocon familial et sortir, aller voir l'autre devient de plus en plus un exploit. Je pense qu'on peut avoir un travail complémentaire. Je pense que le conte peut continuer à exister. Il y a toutes sortes de formules. Il y a de plus en plus d'associations qui veulent promouvoir le conte dans les quartiers. Il y a même une formule de raconter dans les marges escaliers. Vous êtes au courant de ça? On va raconter dans un immeuble et puis les gens viennent dans les marges escaliers puis ça se passe là, et en souhaitant que cette habitude-là demeure. Et il y a des formules de plus en plus extrême. Nous, on appelle ça du sport extrême, du conte extrême. On racontait en plein air des randonnées contées, au bord de la mer. On fait souvent face au vent, donc il y a, c'est bien beau ami du vent, mais quand le vent souffle et qu'il t'empêche même de t'entendre, bon, c'est tout un défi. Mais il y a une réflexion. Malheureusement, je pense pas qu'un compte sur Internet puisse rapporter ce que nous vivons lorsque nous sommes rassemblés. Et je sais qu'il y a plusieurs conteurs, y compris moi-même, qui ont des clips sur YouTube, soit des extraits de contes, des extraits de spectacles, un bout de chant, avec ou sans musicien, selon. Mais une expérience de spectacle, parce que le public interagit aussi, pas seulement avec le conteur, mais
en groupe,
c'est un triangle qui s'installe. Mais comme je vous dis, je vous invite à lire les actes du colloque, parce qu'on a essayé de trouver des pistes pour essayer de rejoindre cette réalité-là contemporaine, où les gens sont confortables chez eux. Mais il y a quand même des gens qui sortent. Quand il y a un match de hockey, le Centre Molson est rempli. Non, mais c'est vrai, les gens sortent quand même. Il suffit de trouver un intérêt suffisant pour les attirer et aussi pour vulgariser. C'est quoi le conte? Je pense que les gens ont encore des stéréotypes par rapport au conte. C'est pour les enfants, c'est pas sérieux, ce sont des facéties. Oui, il y a des facéties, il n'y a pas que ça. Et il y a des productions, il y a des créations littéraires autour du conte. Et voilà, je n'ai pas de réponse. Je pense à voix haute avec vous. On est en train de réfléchir là-dessus. Merci pour le commentaire.
Je vais peut-être rajouter, parce que je crois qu'en Occident, depuis assez longtemps, je veux dire, les grandes familles sont plus là. Bon, il y a deux générations, on avait encore de grandes familles au Québec où, je sais pas, il y avait, à l'occasion de Noël, il y avait des rassemblements de familles où il y avait quelqu'un qui pouvait compter ou chanter. Mais il y a quand même quelque chose là dans le fait que, bon, le conte est passé par écrit avec des livres qu'on peut acheter, ou maintenant on rajoute des CD, où il me semble que bon, les gens peuvent quand même s'approprier ça. On peut aller apprendre les chants qui vont avec, on peut les chanter quand même avec des enfants ou avec. Ça donne quand même une occasion aux familles de se réapproprier enfin des contes, et des contes qui finalement sont un petit peu des contes de partout, parce que les histoires se renouvellent mais elles ne disparaissent pas.
Ouais. Justement, en parlant d'histoires qui se renouvellent, le dernier livre, Contes de Joujou, je pense qu'il est quelque part. Contes de Joujou vend de l'amitié. Ce que j'ai voulu faire avec ce livre-là, j'étais en train d'écrire un livre pour les tout-petits avec la maison Planète Rebelle au moment du séisme. Et puis, il y avait une peine profonde. J'étais avec des enfants en ce temps-là. J'étais en milieu scolaire, je faisais la tournée. Et puis... j'ai sorti de mon tiroir le conte chanté Tis Oiseau que j'avais réinventé, et je trouvais que ça faisait un grand bien. Je reviens donc au conte thérapeutique pour faire la boucle. Et je trouvais que ça faisait un bien fou aux enfants. J'ai vite appelé la maison Planète Rebelle et puis ils ont marché avec moi. Donc on a enlevé un des deux contes qui était dédié au livre, et puis on l'a remplacé par le conte de Tis Oiseau. Et pour rendre ce conte-là vraiment un conte thérapeutique, sans emporter le label comme Jacques Salomé qui fait des contes thérapeutiques, on a voulu que ce conte soit un conte qui fasse du bien et que du bien. Donc j'ai consulté des spécialistes, moi un peu avec ma formation, mais j'ai surtout consulté Marie-Claude Leclerc, qui est psychiatre, psychanalyste, thérapeute. Et ensemble, on a enlevé tout ce qui était inutile, tout ce qui ne faisait pas que du bien. Des images souvent cruelles, c'est la raison pour laquelle je raconte pas les Bouki Malice, parce qu'il faudrait être spécialiste de Bouki Malice. avec le, je sais pas si vous connaissez dans la culture créole, il y a ces contes-là, mais peut-être une autre fois on va en parler. Malheureusement, il y a tant de choses à dire. Donc je reviens à ce livre-là, et donc avec sa complicité, j'ai aussi appelé Gary Victor, parce que j'ai grand confiance en Gary Victor, sa plume, sa vision, sa manière de réinventer le traditionnel. J'avais une idée. Il y a un conte chanté qui existe. Qui suis-je pour dire bon, voici ma version? Je me sentais toute petite, mais j'avais vraiment envie de réinventer ce conte-là. Et je le faisais en toute liberté avec les enfants, mais c'était l'histoire. Je racontais une histoire à partir du conte. Et comme personne n'avait jamais inventé l'histoire, je sentais que j'avais cette liberté-là. Maintenant, réécrire une chanson, c'est quelque chose. Oui. Et donc, Gary m'a beaucoup encouragée. Et puis, il m'a rappelé que les grands classiques, avant d'être classiques, n'était pas connu. Bon, j'ai dit, ouais, ok, on y va. Donc, j'ai réécrit la chanson « Tis Oiseau », mais en suivant la rythmique de la chanson originale. Donc, c'était la vraie chanson originale. « Tis Oiseau, côté où poilé, moi poilé, ka fiette la lo, quand manger timoun, tis oiseau, la manger, quand manger timoun !»
Mais c'est pas nécessaire. C'est un conte qui fait du bien. Pourquoi, tu dis que mange les enfants? Pourquoi? Waouh, c'est trop fort, c'est trop. Donc, ça devient fillette la loconde manger gros bête. Ah, ben ça fait mal, ça fait peur. Mais c'est pas affolant pour un enfant de 3 ans. Donc, en diminuant l'impact de la peur, le message est le même. Donc, on a décortiqué un à un tous les éléments. Et donc, j'ai réécrit la chanson. Maintenant, avec la complicité de Toto Larac, je lui envoie les mots. Et puis, je dis, bon, Toto, j'aimerais que tu me fasses un petit arrangement un peu 2010-2011, tu vois. comme quoi, tu sais, un petit hip, tu vois. Et puis, là, il reçoit les mots. Il dit, mais Joujou, ta chanson est complètement nouvelle. Je dois t'écrire une nouvelle chanson. Donc, il a réinventé l'air. Donc, ça fait vraiment une nouvelle chanson. Alors,
qui est
dans le CD que je ne vais pas chanter, Christiane Messé, parce que je ne rendrai vraiment pas hommage au CD si je me mettais à chanter sans la musique de Toto. Peut-être juste le premier couplet, juste pour vous donner un air d'aller. Ça fait « Six oiseaux côté ou poilé, moins poilé qu'à fillette la lo, qu'on mange gros bête, si ou allé le qu'à manger ou tout, en passant la ville au cap, yo bay, tes oiseaux l'amour, yo bali en pile en mitaille, tes oiseaux prend voler, voler. » Ah, c'est pas pire. Ok, des fois c'est pire que ça. Et puis, j'ai fait aussi appel à un chœur d'enfants. Les enfants sont venus faire les « Oh lolo, 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 lolo. » Donc, c'est un chant qui est un chant de joie. Mais au-delà du côté « olé, olé, la joie », le but réel, c'est un cri d'espoir. Parce que ce livre, il est dédié à 1 million d'orphelins suite au séisme en Haïti pour leur dire que c'est vrai qu'il y a un moment de turbulence, on a été secoué, et si tu vas de l'avant, après la pénombre, viens souvent la lumière. Et à la fin, ça dit, le petit oiseau, on lui a donné plein de cadeaux, l'amour, l'amitié, espoir, courage. Il a mis ça sur ses ailes et puis s'est mis à s'envoler. Brit, colombrit, brit, colombrit. Ah là là, il était vraiment fort, puissant. Dans sa tête, il s'imaginait grand et fort tel un aigle. Alors, arrivé devant Fillette Lalo, qui préparait sa soupe. Miam, 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 disait-elle. Elle avait dans sa soupe des antennes de fourmis. Et puis, elle avait des cornichons poilus et des griffes de chat. Et puis, des plumes d'oiseaux. En voyant le petit oiseau arriver. Miam, miam, miam. Un petit oiseau comme ce sera bon pour ma soupe. Miam, miam, miam. Mais le petit oiseau, avec ses présents, s'est senti grand et fort tel un aigle. Et puis, a pris son courage et puis il a fait un cri strident et puis il a fait et puis Fillette Lalo, qui ne s'attendait pas à une telle défense, a sombré, ses jambes ont tremblé et puis elle est tombée dans sa soupe. Tant pis pour elle. Lorsque le petit oiseau a réalisé le pouvoir de ses présents, elle s'est mise à voler. Elle a volé, volé, volé. Elle a volé, volé, volé. Elle a tant et tant volé qu'elle a atteint le flanc d'une montagne et là, elle a déposé ses présents. Le vent s'est mis de la partie et il y a eu de la poussière d'amitié, poussière d'étoiles, pardon, poussière d'amitié, poussière d'amour, poussière d'espoir et de courage. Et c'est ainsi que plein d'enfants, plein de petits oiseaux d'abord, plein d'animaux et beaucoup de petits enfants, parmi lesquels 1 million d'orphelins victimes du séisme, sont allés se faire les poches, le cœur et la tête. Et là, ils sont remplis de ces présents-là pour avoir un élan pour aller de l'avant, pour penser à demain. Voilà ce que dit le conte.
il y a de la lumière quelque part. Alors ça dit aux enfants, si jamais un jour tu as de la peine, continue à marcher, continue à courir, parce que quelque part, sur une montagne au loin, il y a de l'amour, de l'amitié, de l'espoir, du courage. Il y en a pour tout le monde. Et c'est pour les petits enfants de 3 ans et de 103 ans. Mm-hmm.
Voilà. C'est la preuve qu'on a encore besoin de compte. Bon, avez-vous d'autres remarques, questions? Sinon, c'est une bonne façon de clore la soirée. Oui. C'est un art génial, on en a besoin de joujouturer.
Il y a mettre une deuxième. Bon, je suis arrivé un petit peu en retard. Vous avez parlé de votre parcours. Quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui aimerait commencer par écrire des contes?
Quelqu'un qui veut écrire des contes, prend une plume, une feuille et écrit. Ou un ordinateur. Hein. Une plume, c'est une métaphore. Moi, j'écris encore à la main. Et donc, en lisant ce que vous avez écrit, vous allez voir, est-ce que c'est bon? Vous allez le voir, vous allez le lire. Mais il ne faut pas le garder dans sa tête. Il faut que ce soit concret. Et après une première lecture, une lecture à voix haute, là, on enregistre. Parce qu'écouter et parler, c'est difficile. Là, on l'enregistre. Et là, on s'écoute dire ce texte-là. Si ça passe, c'est que c'est bon. Si ça passe pas, il faut recommencer. Et souvent, si on a un meilleur ami ou une meilleure amie qui peut se faire casser les oreilles par la 112e version du même conte, eh ben ça c'est génial. J'ai eu la chance d'avoir cette amie-là qui a écouté mes contes, les 112 versions vraiment piaches jusqu'à la 113e mois. Ok, ça passe. Donc, c'est ça, de se trouver un alter ego. Mais il faut commencer. Il faut commencer. Et à partir du moment où on a de l'imaginaire, on peut écrire. C'est l'imaginaire qu'on met dans un conte. Une fois que le conte est écrit et que l'imaginaire fonctionne et qu'on trouve que c'est joli, maintenant, attention, il y a quand même le schéma narratif d'un conte. Et ça, il faut aller consulter des livres si vous voulez. Je vais vous donner quelques petits livres de référence. Il y en a quelques-uns. Schéma narratif, est-ce que c'est un conte merveilleux? Est-ce que c'est un conte fantastique? Enfin, c'est un conte de randonnée? Est-ce que c'est pour enfants? C'est pour adultes? Mais d'abord, il faut... Parce qu'un conte n'est pas une nouvelle. Un conte n'est pas un roman. Un conte n'est pas un poème. Donc, il y a certaines rigueurs à respecter. Voilà. Bonne chance.
Merci. Bon, je pense qu'on va remercier beaucoup Joujou Touraine d'avoir partagé tout ça avec nous. C'était tout à fait agréable et ça donne l'espoir que le conte va vivre et qu'on en profitera encore longtemps.
Merci. C'est un plaisir d'être en compagnie de Christiane Jai. Un grand honneur. Merci, Christiane. Merci pour l'invitation.
Merci.
Patrick Poirier. Et puis la librairie. Oui, Olivieri, merci mille fois. Merci pour vos oreilles. Nulle parole n'existe si aucune oreille n'est là pour l'accueillir. Voilà.